2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui 2 décembre 1805, la bataille d'Austerlitz.
Oh, c'est si beau, c'est si grand. Je vis auprès de vous de belles minutes. Je voudrais trouver le titre de mon chapitre de ce 2 décembre.
Mais le voici le titre, mon petit.
Le soleil d'Austerlitz.
D'histoire. Fin novembre 1805, accompagné de quelques soldats, un homme parcourt de long en large une plaine dont la monotonie est à peine rompue par un plateau, le plateau de Pratzen, qui du haut de ses 300 mètres domine un petit village de Moravie dont le nom n'est pas encore célèbre, Austerlitz. Tous ceux qui le croisent reconnaissent cet homme de 36 ans. Couronné un an plus tôt, empereur des Français, il veut connaître mètre carré par mètre carré cet endroit où il a décidé d'attirer et de battre les 85 000 hommes d'Alexandre Ier de Russie et de François II d'Autriche. Car cette bataille, où vont bientôt s'affronter trois empereurs, Napoléon en aura lui-même choisi le théâtre et il en aura écrit sur place le scénario 10 jours avant qu'elle se déroule.
Examinez bien ce terrain, messieurs. Ce sera un champ de bataille et vous aurez un rôle à y jouer. Voilà. Apporte-moi la topographie exacte dans une heure.
Mais qu'est-ce que tu notes là, mon petit ?
Tout ce que je vois et tout ce que vous dites, sire. Pour qu'on n'altère pas plus tard la vérité.
Tu auras beaucoup à écrire d'ici 48 heures. Général Maresco, dans tout ce secteur, faites creuser des trous recouverts d'herbe pour piéger la cavalerie ennemie. Qu'est-ce que cette apparence de château là-bas, Soul ?
C'est là que j'ai établi mon quartier général, sire.
C'est le château d'Austerlitz.
Max Gallo, bonjour. Alors, de toutes les batailles de Napoléon, Austerlitz est sans doute la plus célèbre, la plus connue, la plus belle aussi, peut-être. On disait même que c'était une bataille modèle, Max Gallo.
Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai d'abord parce que c'est au fond
la première comme empereur.
Donc, ça reste un symbole que beaucoup de choses se sont jouées dans cette bataille, à la fois sur le plan de la politique intérieure de la France et puis sur le plan des rapports avec les autres souverains d'Europe, les trois empereurs, comme vous les appeliez, et puis aussi parce que il y avait encore une grande armée qui était portée par un enthousiasme et une presque une adulation pour l'empereur. On rappelle toujours cette scène qu'à la veille de la bataille, dans la nuit qui précède, c'est l'anniversaire du sacre et que les 60 000 soldats français qui sont là allument chacun une torche et que comme ça, toutes ces collines et au bas du plateau sont recouvertes par ce flamboiement et ces cris de « Vive l'empereur !» Mais c'est aussi une bataille qui est probablement l'une des plus belles, parce qu'en effet, comme vous l'avez aussi signalé, on peut dire qu'elle a été totalement maîtrisée par Napoléon. Et quand il y a eu des changements au cours de la bataille, ou dans les minutes, dans les heures qui ont précédé la bataille, il s'y est adapté avec une grande rapidité, il a choisi son terrain, il a vaincu, et je crois que nous sommes là dans une sorte de modèle de la bataille napoléonienne.
Alors il faut la resituer dans son contexte. Napoléon, vous le disiez, était couronné un an plus tôt empereur, et il est en guerre déjà depuis 2 ans. La France est en guerre avec l'Angleterre, l'Autriche et la Russie. Et une guerre, en fait, que Napoléon imagine faire d'abord en attaquant l'Angleterre, en faisant quelque chose qui n'a jamais été fait depuis Guillaume le Conquérant, c'est-à-dire débarquer en Angleterre.
Oui, la grande question, c'est évidemment celle des rapports avec l'Angleterre. En 1802, c'est-à-dire 2 ans avant le sacre, il y a eu le traité d'Amiens, l'espoir d'une paix avec l'Angleterre, et puis l'Angleterre est là au cœur de ce qu'on appellera la troisième coalition, dans laquelle il y a l'Autriche, il y a la Russie, et à l'arrière-plan, il y a aussi la Prusse, hein, de Frédéric Guillaume III.
Qui menace donc, de basculer dans
qui
le
menace
camp.
Dans le, qui en fait a basculé, a déjà basculé dans le camp, même si les troupes ne seront pas sur le terrain d'Austerlitz. Et donc, Napoléon a concentré sa grande armée, près de 200 000 hommes, à Boulogne. Et là, son espoir, c'est évidemment que par une manœuvre navale de l'amiral Villeneuve qui remonterait vers les Caraïbes, vers l'Atlantique, vers les Caraïbes, on bloque au fond l'entrée de la Manche et que profitant de cet isolement du bras de mer entre la France et l'Angleterre, les troupes, eh bien, traversent sur des chalands. Les chalands sont là à Boulogne. Malheureusement, Villeneuve n'a pas la capacité stratégique que lui prête, que espère pour lui Napoléon. Et bref, Napoléon se rend compte au mois d'août 1805 qu'il ne pourra pas traverser, qu'il pourrait peut-être prendre les enjeux traversés. Et donc il fait opérer ce qu'on appelle au fond un pivotement de toute son armée et il la dirige sur l'Allemagne.
Eh bien, puisqu'il faut y renoncer, nous en prendrons la messe de minuit à Vienne. Berthier, écrivez. Mes 150 000 hommes, cantonnés de Brest à Ambleteuse, vont partir immédiatement. Ils vont, dans le plus grand secret, traverser la France et l'Allemagne. En 3 semaines, en direction de Vienne.
Mais il y a 500 lieues à pied.
Oui, oui. Des souliers, occupez-vous de ça tout de suite, Darude. Portez la plus grande attention à ce que je dis. Soyez-vous. La carte d'Ulm. Nous appellerons désormais l'ensemble de nos formations la Grande Armée. Départ pour Paris dans 1 heure.
C'est donc la naissance, Max Gallo, effectivement, de la Grande Armée, une armée considérable à laquelle il va demander des choses inouïes. Effectivement, ils sont à des centaines de kilomètres.
Oui, toute la bataille d'Austerlitz n'a été possible que parce que Napoléon a utilisé un élément décisif qui nous paraît évident aujourd'hui, la vitesse. Seulement la vitesse, c'est 30 à 40 kilomètres par jour à pied pour des hommes qui sont lourdement chargés, qui avancent avec des tambours qui battent et qui s'arrêtent 5 minutes toutes les heures. Et puis qui ensuite, comme ça, font halte là où ils peuvent, quel que soit le temps. Et en même temps, le deuxième élément dont il a voulu jouer avec beaucoup d'intelligence, c'est le secret. C'est-à-dire la rapidité et le secret. Vous savez qu'au fond, une des clés de la stratégie, non seulement à Austerlitz, mais dans l'ensemble de l'histoire militaire de Napoléon, c'est avoir le plus grand nombre d'hommes possible à un point donné, quel que soit le reste des forces. Et pour cela, on verra même ça en 1814, c'est-à-dire quand il n'aura presque plus d'hommes, mais sur un point précis, il aura une supériorité en hommes. Et là, il faut donc rassembler les 150 ou 200 000 hommes, je pense plutôt 200 000 hommes, il faudra les rassembler à un point précis et bénéficier aussi du secret. Et c'est pourquoi, comme on le disait dans l'archive que nous avons écouté, il ne se rend pas directement en Allemagne, il se rend d'abord à Paris. Et à Paris, il va jouer l'homme qui a renoncé pour ensuite gagner Paris-Strasbourg et compléter le dispositif.
En fait, à Austerlitz, quand il y arrive, d'abord il arrive à Vienne, il y a cette bataille d'Ulm, dont personne ne parle jamais, mais qui a été une bataille qui a permis d'éliminer un certain nombre d'Autrichiens. À l'époque, les Russes ne les ont pas encore rejoints. Le général Mack, donc, doit se rendre à Ulm, doit se rendre aux Français avec 35 000 hommes. Et puis, il arrive à Vienne, Napoléon arrive à Vienne sans problème, et il monte tout de suite vers le nord, vers Brune, Olmütz, c'est surtout le village d'Austerlitz. Mais à Austerlitz, en fait, il le sait, ses soldats sont moins nombreux que les Austro-Russes qui ont fait leur jonction.
Bien sûr.
Ils sont 55 000, je crois, contre 85 000.
Et c'est tout le dilemme chaque fois de Napoléon, d'avoir à faire face à des coalitions qui peuvent mobiliser beaucoup plus d'hommes que lui, et cependant se mettre en situation d'avoir, à un point donné, comme je le disais, davantage d'hommes. Vous savez, le champ d'Austerlitz, le champ de bataille d'Austerlitz, il est extrêmement simple à dessiner dans nos têtes, bien que nous n'ayons pas la télévision. Imaginez un triangle rectangle avec deux routes. Le sommet du triangle rectangle, c'est la ville de Brno,
aujourd'hui.
Brno, exactement, en Tchécoslovaquie, voilà, la ville de Brno. Vous avez une ligne droite qui part, disons, vers l'est, c'est Olmütz, et une autre route qui part vers le sud, et c'est Vienne. Et puis, il y a la ligne qui joint ces deux routes, et sur cette ligne, il y a à la fois le plateau de Pratzen et le village d'Austerlitz. Et toute la manœuvre de Napoléon et son intelligence, c'est d'abord d'avoir bien étudié le terrain, et ensuite d'avoir compris que, au fond, les Austro-Russes vont avoir pour objectif de le couper de la ville de Vienne. Et donc vont s'avancer dans une certaine direction, et il faut les attirer.
Voilà, c'est ça, il les attire.
Il faut les attirer dans cette nasse, en faisant mine d'une part de retirer ses troupes d'Austerlitz qu'elles occupaient, et deuxièmement, car ça joue un très grand rôle, car l'espionnage joue toujours un grand rôle dans la préparation de la bataille de la, chez Napoléon. Il a toujours des espions dans le camp ennemi, donc il essaie de savoir quelle est l'attitude, quels sont les dispositifs stratégiques. Et là, le nuage, en somme, de fumée derrière lequel il cache ses intentions, ce sont des tentatives de négociation.
Oui, il envoie Savary, effectivement, proposer un armistice. Il demande même à Murat de feindre d'avoir peur et de reculer. Bref, il fait tout pour que Kutuzov, le commandant en chef des forces austro-russes, vienne sur le plateau de Pratzen où lui, Napoléon, a décidé de livrer bataille. En tout cas, à la veille de la bataille, rares sont ceux qui se méfient de Napoléon, sauf peut-être, justement, son principal adversaire, Kutuzov. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, quelques jours avant la bataille, donc le général russe Kutuzov conseille au tsar d'attendre un peu avant de lancer l'offensive. « Sire, nos troupes, malgré leur zèle et leur impatience de se distinguer, sont épuisées par les marches forcées et les bivouacs continuels. Elles passent souvent 24 heures sans nourriture, faute de temps pour préparer leur repas, attaquées qu'elles sont constamment par l'ennemi. Avec quelques jours de repos et des renforts, nous pourrons alors reprendre l'offensive. » Mais le vieux Kutuzov est bien isolé, les autres officiers, eux, trépignent d'impatience. « Toute la Russie frémit de joie », écrit Kobenzel au tsar. Vous allez devenir le nouveau Saint-Georges.
C'est le ministre des Affaires étrangères autrichien, je crois.
Voilà. Vous allez devenir le nouveau Saint-Georges terrassant le dragon. Alors, bien sûr, ce méchant dragon, c'est le révolutionnaire, le roturier Bonaparte, que ses ennemis refusent d'appeler empereur. Le 30 novembre, donc 2 jours avant la bataille, Napoléon, pour duper l'ennemi, demande une entrevue avec le tsar pour négocier soi-disant la paix. Et le tsar, par dédain, lui envoie seulement son aide de camp, le prince Dolgorouki. J'eus avec ce freluquet, dira plus tard Napoléon, une conversation dans laquelle il me parla comme il aurait pu parler à un bagnard qu'on voudrait envoyer en Sibérie. Alors, ce prince russe n'a en effet que mépris pour, je cite, « cette petite figure forçale et mal accoutrée qu'était Bonaparte ». Et de cette entrevue, il dira au tsar, qui a toute sa confiance, « Bonaparte tremblait de peur ». En réalité, pendant ce temps-là, Napoléon dope ses troupes, et bien des années plus tard, un officier russe repensera à cette nuit décisive du 1er au 2 décembre. « Cette nuit-là, dit-il, le tyran trouve adroitement le secret de se faire donner une fête par son armée. Toutes ses troupes allument simultanément des feux. Chaque soldat tient au bout de sa baïonnette une torche embrasée. Des cris perçants se font entendre sur toute la ligne. Le monstre, c'est comme ça qu'il l'appelle Napoléon, le monstre parcourt les différents bivouacs, parle aux soldats. Les tigres savent caresser. C'est un art que Bonaparte n'ignore pas. C'est la victoire qu'il mendie. Son armée la lui promet. Elle tiendra parole. » Et ce même officier russe remarque aussi que la nuit entière fut employée à reconnaître le camp ennemi, ces fameux espions. Des piquets de cavalerie légère, à la faveur d'un clair de lune, parcouraient le plus près possible le front des Russes et recueillaient les renseignements les plus précieux. Et juste avant le combat, Napoléon harangue ses hommes. « Soldats, l'armée russe se présente devant vous pour venger l'armée autrichienne d'Ulm. Soldats, je dirigerai moi-même tous vos bataillons. Je me tiendrai loin du feu si... avec votre bravoure accoutumée, vous portez le désordre et la confusion dans les rangs ennemis. Mais si la victoire était incertaine, vous verriez votre empereur s'exposer au premier coup. » Alors, la légende veut qu'un vieux grenadier lui a dit à ce moment-là, « Sire, tu n'auras pas besoin de t'exposer. Je te promets que nous t'amènerons demain les drapeaux et l'artillerie de l'armée russe pour célébrer l'anniversaire de ton couronnement. »
Tout le monde a confiance en soi, Max Gallo, au matin ou à la veille de cette bataille d'Austerlitz.
Oui, et ce qui est intéressant dans la citation qu'on vient de lire là, sur la description du rapport entre les soldats et Napoléon, montre que le rapport est tout à fait différent avec les armées de la coalition, si vous voulez. Il y a encore, et cela restera jusqu'au bout, il y a encore un peu un climat de l'époque révolutionnaire, c'est-à-dire un rapport direct de Napoléon avec ses hommes. Et je crois que la grande popularité à Austerlitz, avec cette scène, les torches qui sont allumées, mais aussi, même pendant la campagne de Russie, dans les moments les plus terribles, la grande popularité, c'est aussi que Napoléon s'expose. Il est sur le terrain, par exemple, à la veille de la bataille, lors d'une reconnaissance, il est véritablement arraché à des Cosaques, car il est allé tout à fait à proximité des lignes ennemies. Puis ce qu'il y a d'intéressant, je complète la citation par une phrase, qui est celle-ci, quand il s'adresse à ses soldats, c'est la même citation, « Les positions que nous occupons sont formidables. Pendant qu'ils marcheront pour tourner ma droite, ils me présenteront le flanc. C'est-à-dire que dans cette petite ligne, c'est évidemment tout à fait sommaire, il n'empêche qu'il donne aux soldats de base l'élément fondamental de sa stratégie. Et il en fait donc un participant actif à la bataille.
Eh bien, le flanc, justement, des austro-russes va être percé, on l'entend tout de suite, le matin du 2 décembre, par les grognards qui montent sur le plateau de Pratzen.
On va leur percer le flanc ! Voilà la musique !
France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Et on vient d'entendre donc la marche d'Austerlitz, on va leur percer le flanc, une chanson très populaire de la vieille garde à l'époque, pour le matin, chanter le matin de cette bataille lorsqu'ils prennent le plateau de Pratzen. Alors Max Gallo, il est toujours difficile de décrire une bataille sans images, sans cartes, mais est-ce qu'en deux mots on peut dire ce qui s'est passé dans cette journée de 2 décembre qui commence par un soleil radieux?
Écoutez, pour les chansons, je veux en ajouter une autre parce qu'elle donne le climat de la bataille. On chante « Au noble dans sa giberne, présentons la liberté, que le bougre se prosterne au nom de l'égalité. » Vous voyez qu'il y a aussi ce climat qui n'est pas seulement le climat d'un empereur contre d'autres empereurs, mais qui est le climat d'une France révolutionnaire qui est encore vivante sous Bonaparte. Pour la bataille, elle est relativement simple, si vous voulez.
La guerre est un art simple et tout d'exécution.
Exactement. Les troupes austro-russes descendent vers la route de Vienne et présentent et glissent en somme dans la nasse, attirés par le fait que les troupes françaises qui étaient à Austerlitz ont reçu l'ordre de se retirer. Donc les troupes se retirent, les troupes russes avancent, elles sont bordées à gauche par des étangs qui vont jouer un certain rôle. À droite, il y a Pratzen, ce plateau qui domine, qui est occupé par des troupes russes et autrichiennes, et c'est à l'aube que se fait la décision, puisque, nous l'avons entendu dans l'archive, les troupes françaises montent à l'assaut de ce plateau et vont s'emparer de ce plateau avec un combat symbolique entre les deux gardes impériales, heures de cavalerie, si vous voulez, entre les immenses soldats de la garde impériale russe en uniforme blanc, et puis au contraire, la garde impériale qui a un uniforme sombre, bleu français, française. Et donc c'est donc le choc de ces deux cavaleries. Finalement, c'est la cavalerie française qui va l'emporter. Elle est commandée par Bessières, en face sont les troupes de Kutuzov. Et puis quand il y a à ce moment-là la conquête du plateau de Pratzen, c'est là où se situe l'erreur principale des stratèges russes de Kutuzov, c'est de ne pas avoir essayé de reconquérir ce plateau et d'avoir continué au fond leur marche vers le sud. Et l'artillerie, ils vont être refoulés à la fois par l'artillerie et par des attaques qui viennent de sur leur flanc droit, et ils vont être refoulés sur ces marais où il y aura moins de noyés que ne le dit la légende.
Oui, qui était gelé, il faut le rappeler.
Qui était gelé.
Et Napoléon donne l'ordre
de tirer à boulets rouges. Alors évidemment, surtout l'artillerie qui sombre, l'artillerie russe qui va sombrer dans ces marais. Il y a, si vous voulez, pour donner un chiffre, un ordre de grandeur, je crois que les Français ont d'environ 3000 tués ou blessés, me semble-t-il, je cite de mémoire, 500 à 600 prisonniers, alors qu'il y a plus de 15 000 prisonniers russes et probablement une vingtaine ou une trentaine mille de tués et de blessés.
C'est donc la victoire, effectivement, le soir du 2 décembre, et le soir de cette très célèbre proclamation de Napoléon à son armée.
Les états vertués. Nous n'avons eu que 2000 soldats hors de combat. L'ennemi laisse 15 000 tués, 30 000 prisonniers, 186 pièces de canon qui partent pour la France, là-bas. Jamais le monde ne connut victoire comparable.
Libérez les prisonniers. Je ne veux avoir devant moi que des hommes libres. On construira un pont à Paris qui portera le nom d'Austerlitz. Et deux arcs de triomphe. L'un à la place du Carrousel. L'autre en haut des Champs-Élysées. Et avec la fonte de ces canons, on érigera pour mon retour à Paris une colonne de bronze.
À quel endroit, si?
Place Vendôme.
Soldats! Vous avez à la journée d'Austerlitz décoré vos aigles d'une gloire immortelle. Une armée de 100 000 hommes, commandée par deux empereurs, a été en moins de 5 heures dispersée ou noyée dans les lacs. Mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave !»
C'était Pierre Mondy, donc, dans le film d'Abel Gans, Austerlitz, tourné, je crois, au tout début des années 60. Max Gallo, cette proclamation est très connue, très célèbre, et puis aussi ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que le bronze des canons d'Austerlitz, je crois, c'est l'actuelle colonne Vendôme.
L'actuelle colonne Vendôme, oui, absolument. Ouais. Dont la bataille d'Austerlitz reste une des batailles symboliques, si vous voulez. Il y a deux colonnes qui soutiennent l'Empire, l'une est effondrée, c'est Waterloo, et l'autre c'est Austerlitz. Ce sont les, au fond, entre ces deux batailles qui se répondent un petit peu l'une à l'autre, se situe l'histoire militaire de Napoléon. Et ce sont les deux batailles symboliques. Il est amusant de constater qu'il y a une gare d'Austerlitz et qu'il y a un Waterloo Station.
Et qu'il y a d'ailleurs d'autres événements, cette année 1805, l'année d'Austerlitz, Stéphanie.
Oui, en mars 1805, la République italienne est érigée par Napoléon au Royaume d'Italie. En juillet, au Caire, Mehmet Ali s'empare du pouvoir et libère l'Égypte de 3 siècles de domination ottomane. Le 21 octobre, l'amiral anglais Nelson meurt victorieux à Trafalgar, une autre grande bataille.
Oui, mais c'est Villeneuve justement qui est battue par les Anglais.
Et cette victoire assure à l'Angleterre la maîtrise absolue des mers. Le 10 décembre, donc une semaine après Austerlitz, les possessions allemandes de Bade, Bavière et Württemberg sont érigées en royaume par Napoléon. 2 semaines plus tard, il proclame la déchéance du royaume de Naples. Le 31 décembre, un autre symbole de la Révolution est mis à bas. Le calendrier républicain est abandonné au profit du calendrier grégorien. Et 1805, bien sûr, c'est l'année où Beethoven, qui depuis 5 ans est sourd, présente sa symphonie héroïque, celle qu'il voulait dédier au révolutionnaire Bonaparte. Mais, dit Beethoven, n'est-il pas mort à mes yeux le jour où il s'est fait empereur ?
Voilà, puis en 1805, aussi d'autres événements qui succèdent à Austerlitz, l'armistice avec les Autrichiens, et puis la paix, le traité de Presbourg. En fait, c'est une victoire à la Pyrrhus, car la guerre ne va pas cesser de continuer jusqu'en 1815, Max Gallo.
Bien sûr, en fait, il ne s'agit que d'un intermède, même si, et là c'est un débat que nous n'avons pas le temps d'ouvrir, même si au fond deux thèses s'opposent à propos des historiens, Napoléon a-t-il été entraîné par sa propre logique, soit personnelle, soit politique, dans une succession de guerres qu'il n'a pas pu maîtriser, ou au contraire, a-t-il été contraint à la guerre par des adversaires qui n'ont jamais voulu accepter la France telle qu'elle était sortie de la Révolution française.
Ça, c'est la thèse de Napoléon.
Et c'est la mienne.
Merci, Max Gallo. Je recommande, bien sûr, la lecture de votre biographie de Napoléon, rééditée récemment en poche chez Pocket. Un livre, plusieurs livres d'ailleurs, dont le deuxième volume a pour titre « Le soleil d'Austerlitz ». Je recommande aussi des livres dont Stéphanie s'est inspirée pour la revue de texte, « Le journal inédit de la campagne de 1805 », d'Alexandre Andreau de Langeron, qui était un émigré, et puis aussi les relations et rapports officiels de la bataille d'Austerlitz par les maréchaux Berthier, Davout et Murat. Ces deux livres sont publiés aux éditions Lavouivre, Lavouivre qui est aussi un libraire où l'on peut se procurer ces deux livres. Elle se trouve, une librairie, pardon, qui se trouve 11 rue Saint-Martin dans le 4e arrondissement à Paris et dont le numéro de téléphone est le 01 42 71 32 39. Vous avez pu entendre des extraits de Austerlitz, un film de Abel Gance avec notamment Pierre Mondy et Martine Carole, disponible chez Film Office Vidéo, dans la collection Les Grands Classiques. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33, 2,21 francs la minute, et puis aussi sur Internet, vous pouvez écouter ces émissions, si vous les avez ratées, en composant le www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Étienne Michka, documentation Rebecca de Nantes et Christina Villarcane, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
une émission de Patrice Gélinet. Merci Patrice Gélinet. Nous écoutions une rediffusion du 2 décembre 1999. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une autre émission en compagnie de Max Gallo, La campagne de Russie. Dans quelques instants, juste après les informations, ne manquez pas C'est comme à la radio, présenté par Sylvie Larocca, accompagnée de ses chroniqueurs, qui repartent à nouveau pour 2 heures d'émission. À 16h, c'est Musique Maestro, présenté par Caroline Ostermann, qui reçoit aujourd'hui Xavier Delisle pour lui présenter sa discothèque classique idéale. Et puis à 17h, ce sera Dernier parking avant la plage, présenté par Sophie Loubière, qui sera toute la semaine accompagnée du compositeur de Mission Impossible, entre autres, Lalo Schifrin. France Inter, il est 14h, les informations Corinne Duval. Quatre jours après l'assassinat de François Santoni, un double meurtre en Haute-Corse ce midi. Deux personnes ont été tuées par balle à Moriani, au sud de Bastia. Les corps ont été retrouvés dans une voiture totalement carbonisée. On ignore l'identité des victimes et l'identification s'annonce difficile. Les corps sont calcinés. On ignore également le mobile de ce double meurtre. Des témoins ont entendu des coups de feu et ont vu une voiture s'éloigner en trombe. Un attentat à la bombe dans le centre de Jérusalem, peut-être l'explosion d'une voiture piégée, il n'y a pas de victimes, le secteur est bouclé. Côté négociation, on s'oriente vers une rencontre entre Yasser Arafat et Shimon Peres à Berlin pour discuter d'un cessez-le-feu. Les deux hommes sont d'accord, aucune date n'a été fixée. Elle pourrait avoir lieu très prochainement, selon le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres. Le Club Med procède à une inspection générale de ses piscines dans tous ses villages vacances, c'est ce qu'affirme la direction. Mesure qui fait suite à la noyade samedi d'un garçon de 7 ans. Le petit Axel est resté bloqué sous l'eau par une bouche d'aspiration placée au fond de la pataugeoire dans le Club Med de Marathon en Grèce. La justice grecque a d'ailleurs ouvert ce matin une information judiciaire. 3 personnes sont mises en examen pour homicide involontaire, dont le directeur français de l'établissement de Marathon. Péroline est quelqu'un de très perturbé, c'est ce qu'affirme l'avocate de la jeune compagne de Stéphane Kraut, le suspect numéro 1 dans l'affaire Karine. Péroline qui a fait de nouveau volte-face, changé ses déclarations. Hier, dans le bureau du juge d'instruction de Sarreguemines, elle a à nouveau accusé son compagnon qui aurait volontairement percuté Karine pour ensuite la violer. Stéphane Kraut est mis en examen pour meurtre et pour viol. Depuis ce matin, il y a un vigile devant chaque agence de la Caisse d'épargne dans le nord de l'Île-de-France. C'est la conséquence des deux braquages en moins de 15 jours, dont celui de Sergi Pontoise qui avait fait 3 morts. La mesure est provisoire. Une réunion est prévue à la fin de ce mois entre syndicats et direction de la Caisse d'épargne pour discuter de la situation et des questions de sécurité. À nouveau des perturbations sur la ligne 2 du métro parisien aujourd'hui en raison du mouvement de grève des syndicats Sud et CGT de la RATP. Pour des questions de conditions de travail, il y aurait 20% de grévistes sur la ligne 2. Baignade interdite pour 2 plages du Var, 2 plages très prisées de Toulon, en raison d'une pollution d'un ruisseau qui se jette dans la Méditerranée. De nombreux poissons morts ont été repêchés dans le cours d'eau. On ignore l'origine de cette pollution, des analyses de l'eau sont en cours. La décision de rouvrir ou non ces plages sera prise demain matin. À la Bourse de Paris, on retrouve tout de suite Francis Bernard. Le marché est à la hausse, Francis.
Oui, effectivement, Corinne, on attend une ouverture en hausse des marchés américains et puis peut-être une bonne nouvelle ce soir en provenance de la Réserve fédérale, une bonne nouvelle pour les entreprises puisque cela éviterait que les taux inflationnistes se resserrent sur l'économie américaine et puis surtout elle permettrait de redonner un petit peu d'air à cette économie. Donc pour le moment, on reste confiant. À Paris, eh bien, le volume est un petit peu plus animé que ce matin, puisque les échanges s'élèvent déjà à 1,5 milliard d'euros. Les transactions sont assez animées. Le CAC 40 résiste au-delà des 4800 points. Il est en hausse pour le moment de 0,41%. Le seul qui fait les frais pour le moment de cette situation, de cette anticipation, eh bien, c'est l'euro. L'euro qui perd 0,2%. Prudemment, il prend quelques bénéfices à 0,2%.